Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Marc Olery, dont Nicolas Sendé, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Clara Galivelle. Nouvelle série donc consacrée aux nouveaux pirates de l'Internet, les pirates 2.0. Demain mardi, nous nous tournerons vers les lanceurs d'alerte. Mercredi, il sera question des cyber-escrocs du côté de l'Afrique. Enfin jeudi, nous nous pencherons sur les réseaux sociaux et leurs patrons, les nouveaux censeurs du web. Mais avant cela, arrêtons-nous sur les cyber-attaques, les hackers qui les commettent et les États qui les emploient. Hackers sous-traitants de la cyberguerre, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Tonight, the U.S. is under cyber attack as federal officials warn that a likely Russian-based hack has penetrated deep into U.S. national security infrastructure.
It was both extraordinarily sophisticated.
C'était à la fois extraordinairement sophistiqué et de très grande ampleur. Les hackers ont placé un logiciel malveillant dans le logiciel officiel d'une entreprise de gestion de réseau. Et quand cette entreprise a distribué les mises à jour, il s'est diffusé dans les appareils de 18 000 clients dans le monde entier.
Nous ne pouvons pas laisser cette attaque sans réponse. Cela veut dire que nous devons afficher clairement et publiquement qui est responsable de cette attaque et prendre des mesures significatives pour qu'ils rendent des comptes. Les premières enquêtes du secrétaire Pompeo suggèrent que c'est la Russie qui est responsable de cette brèche dans notre système.
On entendait d'abord Brad Smith, le président de Microsoft, et puis évidemment Joe Biden, qu'on ne présente plus. En décembre dernier, les États-Unis révélaient avoir été victimes d'une attaque informatique massive sur la plateforme texane SolarWinds, utilisée par de nombreuses entreprises, mais aussi par des institutions. L'attaque aurait débuté au printemps dernier, avec des mises à jour piégées permettant d'offrir des accès dérobés aux données hébergées. Le Trésor, le Département américain du Commerce, le ministère de la Sécurité intérieure, mais aussi des centaines, des milliers d'entreprises présentent un peu partout dans le monde. Alors que Donald Trump avait largement minimisé l'attaque, son successeur, lui, a été beaucoup plus ferme. On l'entendait, il laisse peu de doutes sur son origine, la Russie. Alors quelle sera la riposte de Joe Biden à cette cyberattaque? Les États-Unis peuvent-ils répliquer et comment? Et d'ailleurs, comment cette attaque a été rendue possible? Et faut-il s'attendre à des évolutions dans le domaine de la cybersécurité américaine qui révèlent visiblement quelques faiblesses? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Julien Nocetti. Bonjour Julien Nocetti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça y est, vous êtes arrivé. Vous êtes professeur de relations internationales à Saint-Cyr, associé à l'IFRI et membre de l'Institut Géode, qui est un centre de recherche et de formation sur la datasphère. Avec nous également François Delerue. Bonjour.
Bonjour.
Je prononce correctement Delerue, c'est bien.
C'est bien ça.
C'est bien ça. Vous êtes chercheur en cyberdéfense et droit international à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et enseignant à Sciences Po Paris. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Alors, il y a quelques jours, il y a eu cette attaque, mais il y a eu aussi, quelques jours après, un site qui a été créé pour mettre en vente les données de la plateforme texane. Alors, on y propose, j'y suis allé, moi, pour regarder, pour préparer cette émission, on y propose des codes sources de Microsoft, le gestionnaire interne de failles de Cisco, des outils de piratage de FireEye, le fichier client de SolarWinds, le tout pour la somme $1 million. Alors, je vous cache pas que je les avais pas tout de suite et maintenant, donc j'ai pas pu acheter, mais en revanche, c'est intéressant d'avoir ce site-là, un prix, une explication qui nous dit qu'il n'y a pas de négociation possible, qu'on vous contactera dès qu'il y aura le premier versement. On laisse entendre aussi que d'autres choses sont à venir. Julien Nocetti, est-ce qu'il faut comprendre que le mobile du larcin, il est purement lucratif? Il s'agit pour les hackers qui sont derrière, d'abord et avant tout, de gagner de l'argent, ou c'est plus compliqué que ça, Julien Nocetti?
Alors, effectivement, une large part de cette cyberconflictualité, elle a quand même pour motif principal le facteur économique. C'est malgré le caractère évidemment très 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 inquiétant et très anxiogène des grandes cyberattaques qui visent ou qui impliquent des États, il y a quand même le cœur du sujet, c'est la cybercriminalité. Et ce que vous avez souligné, en fait, c'est une question stratégique. C'est la disponibilité, la démocratisation de toutes ces cyberarmes qui sont aujourd'hui une industrie à part entière, qui sont disséminées en tout point du globe et qui peuvent faire l'objet de transactions. Pas seulement entre États et services d'enseignement, mais aussi entre vous et moi. Voilà, donc si vous voulez, vous avez une prolifération de ce type d'outils, d'instruments, et qui s'échangent quotidiennement dans le cyberespace.
Ouais, tout est un peu interconnecté, c'est là la difficulté, mais on va s'intéresser, nous en particulier, aux attaques d'État à État, si je puis dire, mais on le voit dans ce genre de situation, en réalité, on a évidemment des acteurs qui sont derrière et qui peuvent avoir effectivement un mobile lucratif. François Delerue, Orion, qui est le produit phare de SolarWinds, qui a été attaqué, compte plus de 30 000 clients dans le secteur public et dans le secteur privé. On imagine que c'est un préjudice colossal à la clé, peut-être inédit.
Alors, j'aurais deux commentaires sur ce point. Le premier commentaire sur la question justement du but lucratif. Comme l'a très bien souligné Julien Nocetti, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a une dimension lucrative aux cyberattaques et à ce marché gris ou noir en fait de vulnérabilité et de cyberarmes. Mais en même temps, il est possible aussi que des acteurs qui puissent être des acteurs étatiques qui seraient derrière cette attaque et en fait fait le choix de mettre ces armes en ligne, aux enchères, non pas réellement dans un but lucratif, mais aussi dans un but de communication. Car en mettant et en exposant publiquement toutes ces vulnérabilités, vous montrez aussi toute la faiblesse du système américain et donc toute la faiblesse, en fait, finalement, des outils qu'ils utilisent. Et donc, il y a quand même aussi tout un élément, on va dire, de peur et de menaces en termes de communication qui est assez important. Après, oui, c'est un des problèmes aujourd'hui, et c'est peut-être une des réalités sur cette attaque. Ce que ça montre, c'est que finalement, l'attaque est peut-être d'une intensité dont on peut débattre, qui n'est pas forcément très élevée, mais le fait que le logiciel visé, que les logiciels compromis soient aussi largement utilisés, crée en fait un véritable problème de sécurité, tant pour les Américains que peut-être pour d'autres États qui utilisent aussi ce logiciel.
Sur l'origine, Julien Nocetti, et en particulier l'origine étatique de tout cela, les chercheurs de chez Kaspersky, qui est le leader mondial de la cybersécurité, et qui pour la petite histoire sont, pour beaucoup en tout cas, d'origine russe, ont rendu un rapport très récemment dans lequel on trouve une série de choses qui nous semblent pointer du doigt la Russie. Quels sont ces indices et est-ce qu'on peut légitimement penser que effectivement cette attaque là, qui vient de toucher les États-Unis, eh bien il y a le gouvernement russe derrière? Julien Nocetti.
Alors, effectivement, ce qui a été souligné, hein, ça a été très rapidement de la part des responsables américains, excepté la Maison Blanche au départ, hein, par la voix Trump, hein, qui a lui plutôt porté son accusation sur la Chine. Hein, donc c'est aussi à relever au mois de décembre. Et ce qui est très notable, hein, c'est que peu de pays, d'acteurs au fond, hein, ont l'expertise humaine, technique et les ressources également financières pour mener une telle attaque. Parce que ce qu'il faut bien retenir, hein, dans le cadre de cette opération, c'est qu'elle a été lancée a priori dès le mois de mars 2020. Donc c'est un temps assez long finalement où entre le début supposé l'opération mars 2020 et la détection par les Américains, les autorités américaines en décembre 2020, il s'est écoulé quasiment 9 mois.
Donc c'est un travail, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un travail au long cours qui n'est possible qu'avec le soutien d'un État. C'est ça que vous voulez nous dire très concrètement.
Très vraisemblablement, sachant que dans le cas présent, hein, ce qui est aussi une évolution probable en matière de cyberconflictualité, c'est que les hackers ont exploité une vulnérabilité, une faille dans toute la chaîne logistique, hein, dans ce programme Orion. Et ça a mis un coup de projecteur sur toutes ces chaînes d'approvisionnement, toutes ces supply chains qui traditionnellement en matière cyber faisaient moins l'objet, si vous voulez, de sécurisation ou d'attention de la part des décideurs, des responsables politiques et économiques. Et ça c'est un point tout à fait important qui a été également observé à l'automne dans le cadre du développement et de la production des vaccins contre le Covid-19, où il y a eu différentes attaques, hein, des attaques répétées, révélées aussi par des grands acteurs économiques. Hein, on a mentionné tout à l'heure Microsoft et consorts, qui ont aussi mis un coup de projecteur sur ce type de mode opératoire, hein, de vraiment viser toute la chaîne logistique de fournisseurs, etc.
François Delerue, il y a évidemment la question des États, mais celle qu'on peut se poser aussi, c'est celle de la responsabilité de l'entreprise qui a été visée, SolarWinds. En l'occurrence, on peut aussi considérer qu'il y a eu des manquements, tout le moins quand même, s'agissant de la manière dont on sécurise toutes ces données. François Delerue.
Alors, sur la question de la sécurisation des données, sur la question de la sécurisation des logiciels, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que vous allez faire un certain nombre d'efforts, d'investissements pour sécuriser vos logiciels, mais le fait de trouver une vulnérabilité dedans, c'est aussi un facteur chance. Bien sûr, en ajoutant plus de personnes qui vont chercher ces vulnérabilités, vous augmentez vos chances. Mais il est quand même quasiment impossible aujourd'hui, en tout cas très difficile, de prévoir toutes les vulnérabilités possibles d'un logiciel. Et c'est peut-être là aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que SolarWinds a peut-être fait un certain nombre d'efforts et ils ont raté une vulnérabilité et les hackers de l'autre côté, peut-être liés à la Russie, peut-être liés à d'autres acteurs, ont eu la chance de la trouver, certainement parce qu'ils sont très bons, certainement parce qu'ils y ont mis les moyens. Mais voilà, je pense que c'est aussi un élément important à prendre en compte dans cette question. Et c'est pour ça, en fait, que cette attaque est intéressante et sur quelque chose que mentionnait Julien Nocetti, c'est vous allez chercher à chaque fois le maillon faible. Et il semblerait qu'ici, le maillon faible dans toute cette chaîne logique, en fait, de logiciels interconnectés, d'outils interconnectés, de données qui s'échangent, c'était ce fameux logiciel et qui leur a permis, en fait, d'entrer et après d'accéder à des logiciels qui étaient peut-être mieux sécurisés ou pour lesquels, en tout cas, ils n'avaient pas découvert de vulnérabilité.
Julien Nocetti, vous connaissez bien la cyberstratégie russe. Alors, on a un certain nombre de groupes de hackers russes dont on considère qu'ils pourraient être derrière ce genre d'attaque. Je pense à Turla, je pense à APT-28, APT-29. Aidez-nous un petit peu à y voir plus clair sur ces différentes hypothèses. Quel groupe de hackers pourrait être derrière? Et puis, de façon plus générale, comment se structure la chose? Parce qu'il y a évidemment des liens très clairs avec le gouvernement. J'aimerais qu'on essaye d'y voir un tout petit peu plus clair sur ce paysage.
Effectivement, c'est un paysage extrêmement complexe dont je ne prétends aucunement avoir toutes les ficelles. Et si j'avais la réponse d'ailleurs à l'attaque sur la Winds, ça vaudrait extrêmement cher. Alors, effectivement, ce qui est.
Non, mais vous avez quelques idées sur la structure générale de l'ensemble, hein.
Bien sûr, tout à fait. Dans ce qui a été essentiellement souligné par les responsables américains, ça a été une responsabilité supposée du groupe APT-29, qui est aussi surnommé Cozy Bear, et qui serait lié au SVR, donc le service de renseignement extérieur de la Russie. C'est un groupe, APT-29 Cozy Bear, qui avait déjà fait parler de lui avec son compère, entre guillemets, APT-28 Fancy Bear, qui lui serait lié au GRU, donc les renseignements militaires russes, pendant la campagne électorale de 2016, la campagne électorale américaine de 2016, où ces deux groupes, de différentes manières, selon des cultures maison et des modalités tactiques très très différentes, ont aussi contribué à toute cette campagne à la fois d'influence, de désinformation, de propagande et aussi de cyberattaque à l'époque, et ça avait visé le camp démocrate tout particulièrement. Donc là, c'est essentiellement ce groupe affilié au SVR qui est pointé du doigt. Sachant qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé tout à l'heure et qui est aussi privilégié par certains de ces groupes russes, hein, c'est le fait que l'action des pirates, hein, entre guillemets, ait été totalement dissimulée. C'est-à-dire que ça a vraiment été un travail d'espionnage certes, mais de clandestinité. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ça suppose, encore une fois, hein, pour insister dessus, hein, des moyens au long cours et une volonté d'intrusion là aussi extrêmement forte et qui dépasse le seul volet technique, hein, qui nécessite vraiment un imprimatur politique, je dirais. Donc vous avez voilà différents groupes.
Et jusqu'où sont-ils? Jusqu'où ces groupes, Julien Cetti, sont liés au gouvernement? Parce que vous avez cité les services extérieurs, vous avez cité les renseignements. Voilà. Il y a aussi les services secrets. Est-ce qu'il faut comprendre que ces groupes de hackers sont tout simplement des employés, en réalité, de ces différentes agences? C'est-à-dire qu'on est un lien direct, on a des gens qui sont rémunérés pour ces actions, pour leurs actions, ou tout ça se passe de façon un peu plus officieuse?
Et bien là, en fait, vous soulignez la principale difficulté de ces groupes et des relations entre hackers et État. Et pour reprendre l'intitulé de l'émission, hein, sous-traitant, je pense que l'expression est très juste, mais demeure toutefois la difficulté à estimer en fait le degré d'intégration, hein, comme on dit, de ces acteurs au sein des organes de sécurité dont on parlait, donc SVR, GRU, etc. Et malgré des faisceaux d'indices qu'on peut avoir, donc certains peuvent être très concordants, hein, et les deux groupes que j'ai mentionnés à l'instant, voilà, ne laissent aucun doute, mais ce qui va constituer un avantage très très fort pour l'État russe, ça va précisément être cette difficulté pour nous, cible, à établir un lien organique entre le Kremlin, voilà, le décideur, et ses sous-traitants, qu'ils soient intégrés au sein de l'État ou qu'ils fassent partie d'une constellation plus large d'acteurs paraprivés ou semi-étatiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, et c'est ce qui fait tout le sel entre guillemets de l'usage du cyberespace pour la Russie, qui est vraiment de jeter un flou, de jeter un doute permanent sur les responsabilités. Et ça va surtout jouer dans une question tout à fait centrale et sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, qui est l'attribution des cyberattaques. Mmh. C'est précisément là où les cibles sont constamment désarçonnées parce que avec des nuances bien évidemment, il y aura une difficulté à établir un lien précis entre ces hackers et ces États.
Et c'est évidemment un flou qui est savamment construit du côté de la Russie, François Delerue, d'autant plus que si on regarde de l'autre côté, du côté américain, c'est évidemment des pratiques que l'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on ne possède pas aux États-Unis des groupes de hackers qu'on pourrait solliciter pour ce type d'opération. Les choses s'organisent dans des cadres beaucoup plus formels et donc plus légaux aussi, François Delerue.
Alors, je ne suis pas forcément d'accord sur cette affirmation.
Très bien, alors justement, allez-y.
Pour deux raisons, c'est-à-dire que la première raison est oui, la différence entre aujourd'hui la Russie, je dirais, et les États-Unis, c'est que les États-Unis communiquent beaucoup plus sur leur structure de cyberdéfense et elle est peut-être, en tout cas pour nous occidentaux, plus claire. Et c'est vrai que la littérature académique française ainsi que les médias français ont beaucoup plus accès aujourd'hui à ces informations. Donc on a une structure qui est relativement claire avec le rôle du cybercom, avec le rôle d'un certain nombre d'autres acteurs. Au niveau russe, on voit aujourd'hui se dessiner quand même une structure. Il y a une étude qui est sortie, enfin il y a un livre qui est sorti l'an dernier de Andy Greenberg, qui est journaliste à Wired, qui a travaillé sur Sandworm, en fait, qui est un de ces groupes qui gravite, on va dire, dans la sphère russe, et qui montrait aussi tout à fait ces liens entre le SVR, le GRU, les concurrences qu'il existe entre les différentes institutions au sein de la Fédération de Russie et notamment au sein des différents services de renseignement. Et c'est quelque chose qu'on a aussi vu aux États-Unis. Vous avez eu une guerre assez forte sur la cybersécurité entre les différentes agences de renseignement aux États-Unis et aussi une guerre très forte entre la défense et la sécurité intérieure.
Est-ce qu'il existe en Russie une agence dédiée à la cybersécurité ou est-ce que tout dépend en réalité justement des services traditionnels historiques? Parce que du côté des États-Unis, on a quand même une agence spécifique, qui est l'agence américaine en charge de la cybersécurité. En Russie, on n'a pas ça.
Alors, je suis pas un spécialiste de la Russie, donc je ne pourrais pas vous expliquer la structure clairement. Vous avez des agences. En termes de cybersécurité, vous avez des agences officielles en charge de la cybersécurité, comme vous l'avez aux États-Unis. Mais comme aux États-Unis, une partie et notamment la partie offensive, qui est la partie qui nous intéresse aujourd'hui, est plutôt gérée par des services de renseignement qui, par définition, a tendance à être un peu plus secrète. Sur votre question de groupe non étatique, c'est posé la question par le passé du lien entre les États-Unis et un certain nombre de groupes, et notamment, vous avez eu en 2016 la fuite d'un certain nombre de données sur des cyberarmes utilisées par la NSA, qui était liée à un groupe qui s'appelait Equation Group. Il n'a jamais été clairement établi si ce groupe est en fait des employés normaux, on va dire, de la NSA, ou si ce sont ou de la CIA, ou si par exemple c'est un groupe qui agit pour leur compte, mais ayant des liens différents. L'autre chose que vous avez clairement aux États-Unis aujourd'hui, c'est que vous avez des entreprises de cybersécurité qui sous-traitent au gouvernement américain un certain nombre de fonctions, que ce soit la découverte de vulnérabilités, que ce soit aussi la conduite d'opérations. Donc c'est pour ça une partie en fait...
Attendez, la conduite d'opérations, vous pensez à quoi? Vous faites référence à quoi?
Mener des cyberattaques.
Oui, j'ai bien compris. On a des exemples?
Non, justement, nous n'avons pas d'exemple, mais il existe aujourd'hui clairement des entreprises de cybersécurité qui affichent cette possibilité dans leur portefeuille d'actions. Bien sûr, elles ne commentent pas sur les actions qu'elles vont mener, mais c'est en tout cas clairement établi dans le descriptif de ces entreprises qu'elles sont capables de mener ce type d'action pour le compte de leurs clients.
Julien Nocetti, ça veut donc dire qu'a priori, du côté des États-Unis, on a là des outils qui pourraient permettre de répondre à cette attaque. On pourrait avoir une riposte américaine à peu près de l'ampleur et de la nature de celle qui vient d'être lancée a priori depuis la Russie, Julien Nocetti. C'est-à-dire que Biden pourrait lancer ce genre d'opération à son arrivée à la Maison-Blanche.
Alors, Alors ça, c'est un point évidemment extrêmement sensible et qui a d'ailleurs suscité des propos très très réactifs, très offensifs de certains sénateurs américains, en particulier au mois de décembre. Alors, à mon avis, le principal élément, c'est qu'il faut avoir des preuves qu'il s'agit plus que d'espionnage. Et ça, c'est un problème complexe parce que les États-Unis ils peuvent pas en réalité se plaindre du piratage. Alors, attribué ou pas à la Russie, hein, y compris par des moyens militaires, parce que l'État américain lui-même pirate des réseaux étrangers quotidiennement, ce qui a été souligné par François. Donc une réponse militaire, et je parle sous contrôle, ça violerait le droit international, sachant que l'espionnage ne viole pas le droit international. Ça, c'est compliqué parce que si on se replace quelques années auparavant, alors de mémoire, c'était en 2016, avant de quitter la présidence, Barack Obama avait reconnu que les États-Unis avaient plus de capacités offensives que n'importe qui. Donc ce qui était une expression déjà assez forte. Et l'année précédente, quand le SVR russe avait piraté les messageries de la Maison Blanche et du département de la Défense, Barack Obama avait parlé d'espionnage classique et n'avait pas répliqué. Bon, évidemment, les États-Unis ont différents outils à leur disposition, et certains ont été testés. Vous avez bien évidemment les sanctions économiques, et ça, Washington en est assez friand. Vous avez aussi les arrestations, et ça, les États-Unis ont déjà signalé les années précédentes, dans les médias, avoir arrêté des hackers, en particulier supposément affiliés à la Russie. Et vous avez aussi une méthode plus classique qui consiste à retourner des hackers, donc faire en sorte qu'ils travaillent pour votre gouvernement et non plus pour l'ancien. Ce que ça peut entraîner tout ce type de mesures, c'est une escalade, très classiquement, escalade qui peut aussi avoir pour effet d'augmenter les vulnérabilités aux États-Unis. Ça, c'est aussi un lien avec toute une série de mesures prises aux États-Unis ces dernières années pour réorganiser la cyberdéfense et les opérations cyber. Mais vous avez un point fondamental, encore une fois, sur cette certitude qu'il doit y avoir sur les buts de l'opération d'un côté, donc aller au-delà de notre espionnage, et de l'autre côté sur l'acteur véritablement impliqué. Et ça, vous avez beau avoir des faisceaux d'indices qui peuvent être très concordants, comme on dit, mais le doute qui va persister va contribuer à alimenter des politiques opportunistes, peut-être ici le cas présent dans le cas de la Russie, et qui va donner à la Russie un avantage toujours important en la matière.
Parmi les réactions qu'on a entendues du côté des États-Unis après cette attaque, celle du sénateur républicain Mitt Romney, écoutez.
Ils n'ont pas largué de bombes, mais ils ont été en mesure de montrer que notre défense est particulièrement inefficace et que notre préparation à toute cyberguerre est extraordinairement faible. Ils pensent que notre capacité à répliquer dans le domaine cyber est si faible qu'ils ont mené cette action en toute impunité. Notre sécurité nationale est vulnérable.
C'était donc Mitt Romney qu'on entendait suite à cette fameuse cyberattaque. Il témoignait au HuffPost, c'était le 18 décembre dernier. François Delerue, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a, j'allais dire, un commentaire assez largement ostentatoire sur lequel on peut s'interroger. Au fond, est-ce qu'il est bon dire qu'on a été victime d'attaque? Est-ce qu'il est bon de dire qu'on est très faible sur la question cyber? Ça, c'est le premier point. Et ensuite, la réalité derrière, c'est-à-dire est-ce que effectivement aujourd'hui on peut dire que les États-Unis présentent un certain nombre de failles, de faiblesses s'agissant de la cybersécurité. Tout à l'heure, Julien Nocetti nous rappelait ces mots de Barack Obama qui, au moment de partir, disait que les États-Unis étaient le pays qui avait le plus de capacités offensives en termes de cyber. Mais on peut se dire qu'après tout, peut-être qu'en face de cela, il y a un certain nombre de faiblesses sur le plan défensif et qu'on a oublié justement un peu ce volet-là. François Delerue, vous qui travaillez à l'IRSEM, donc l'Institut de Recherche Stratégique et de l'École Militaire, François Delerue.
Oui, alors il y a plusieurs éléments dans la déclaration de Mitt Romney. Le premier qui est intéressant et que vous avez relevé est qu'il nous dit que les États-Unis seraient faibles parce qu'ils ne seraient pas forcément en mesure de riposter. Donc c'est intéressant de toujours ramener cette idée que la meilleure défense c'est l'attaque, qui est une théorie très en vogue dans le cyber, et qui est un peu derrière ce que les Américains font, c'est que Ils partent du principe, en fait, que ce problème viendrait du fait qu'ils ne sont pas forcément pris au sérieux dans le cyberespace, ou en tout cas, c'est la manière dont ils le présentent. Et pourquoi ils le présentent de cette manière ? C'est parce que ça leur permet de dévier, en fait, la discussion sur le fait qu'il y aurait des acteurs malveillants dans le cyberespace, notamment la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et un certain nombre d'autres gros méchants dans le cyberespace. Et que c'est pour ça, en fait, que leur système a pu être attaqué. Alors que la réalité derrière, leur système a pu être attaqué parce qu'en termes de cybersécurité, en termes de sécurité, il y avait des failles et que ces failles ont été trouvées par les acteurs. Dans le même temps, dire que les États-Unis ne seraient pas en mesure de riposter peut faire sourire quand on connaît les habitudes de cyberattaque des États-Unis qui sont quand même régulièrement aussi pointées du doigt pour la conduite de cyberopérations. Et le meilleur exemple aujourd'hui, le meilleur exemple à rappeler reste Stuxnet, la seule cyberattaque connue à ce jour qui a produit des dommages physiques est une cyberattaque qui a été conduite par les États-Unis en coordination avec Israël. Stuxnet était un virus informatique qui a pénétré le système nucléaire iranien et a produit des dommages physiques sur les centrifugeuses de la centrale de Natanz. Donc dire que les Américains n'auraient pas les capacités et ne pourraient pas les montrer semble un petit peu tiré par les cheveux, et c'est simplement une manière pour eux de détourner la discussion du fait que, bah oui, le fait d'utiliser des logiciels qui sont produits par des entreprises privées, qui sont interconnectés, qui ne sont peut-être pas au niveau de sécurité qu'on pourrait s'attendre pour les systèmes où ils sont connectés, pose un problème de sécurité et pose un véritable problème dans le fonctionnement de la cyberdéfense américaine. Sur la question qui était posée précédemment, sur cette question en fait de qu'est-ce que peuvent faire les Américains aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui un petit peu coincés, parce que d'un côté on a une pression en fait très forte au niveau politique, notamment donc Mitt Romney et d'autres, de dire oui il faudrait une riposte et ainsi de suite. D'un autre côté, quand on analyse la cyberattaque et ses effets, ça reste de l'espionnage qui, oui, en soi, n'est pas interdit par le droit international. Par contre, quand l'espionnage amène à violer la souveraineté, amène à violer d'autres règles du droit international, peut amener une réponse. Mais on reste quand même sur une attaque qui, finalement, quand on l'analyse, a eu des effets relativement limités. Après, ils sont de grande étendue parce que les logiciels concernés sont des logiciels de sécurité intérieure et interconnectés. Mais ça, c'est un petit peu plus la responsabilité, on va dire, de la victime, et donc ici du gouvernement américain, qui avait interconnecté des systèmes qu'il n'aurait peut-être pas dû interconnecter, ou en tout cas qu'une attaque sur ce maillon de la chaîne a permis d'accéder. Mais en soi, l'attaque est de faible intensité ou d'une intensité relativement limitée, ce qui n'ouvre pas la possibilité à une réponse militaire, par exemple. Et c'est tout le problème des Américains aujourd'hui, c'est que s'ils répondent sur le plan militaire, ils se mettront en contradiction avec le droit international.
Justement, le droit international, François Delruet, je vais continuer un peu avec vous. Que nous dit-il s'agissant du cyberespace ? Qu'est-ce que c'est qu'un acte de guerre dans le cyberespace du point de vue du droit international ? Parce que vous dites, là, c'est du renseignement, donc tout va bien. Alors, c'est quoi un acte de guerre dans le cyberespace ?
Alors, je ne dis pas que parce que c'est du renseignement, tout va bien. Ce que je veux dire par là,
je caricature un tout petit peu.
Tout ne doit pas être vu sur le prisme de la guerre. Et c'est ça qui est important à prendre en compte, c'est que vous avez une gradation, en fait, dans le degré, on va dire, de violation du droit international, dans l'intensité des actes, qui va amener une gradation dans la réponse. Le summum, aujourd'hui, on va dire le maximum, en droit international, c'est ce qu'on appelle une agression armée, qui va ouvrir le droit à la légitime défense des États. La légitime défense, c'est le fait de pouvoir répondre par des moyens militaires, de pouvoir envoyer des bombes, de pouvoir envoyer des soldats, et ainsi de suite. Pour avoir le droit d'invoquer ce droit de légitime défense, il faut qu'il y ait eu une agression armée. Et aujourd'hui, dans le cyberespace, que les États tendent à reconnaître comme une agression armée, c'est les cas où il y aurait des décès de personnes, des blessures sur personnes, ou des dommages physiques sur des biens, et qui atteindraient une certaine intensité. Donc par exemple, sur les exemples que l'on connaît de cyberopérations, aujourd'hui seul Stuxnet, qui a entraîné justement cette destruction physique de centrifugeuses nucléaires, pourrait, et je dis bien pourrait, être considéré comme une agression armée. Et c'est encore sujet à débat dans la communauté scientifique.
Oui, parce qu'il y a toujours ce problème, François Delruet, qu'en fait, il y a la définition qui pose souci. On n'est jamais sûr de l'origine, évidemment, de la dite attaque, ce qui pose toujours souci, et qui permet à chacun des États de faire à peu près ce qu'il veut. Julien Nocetti, il y a la Russie, soit, mais il y a d'autres acteurs dans le cyberespace. Et il y a notamment la Chine. Il y a plusieurs questions sur la Chine. D'abord, est-ce qu'elle est, un peu à l'instar de la Russie, un acteur qui vieille et coutumière des cyberattaques, avec une architecture un peu semblable à celle qu'on décrivait sur la Russie, c'est-à-dire avec des hackers qui, en réalité, eh bien, travaillent pour les services chinois. Et est-ce qu'elle est, on oublie parfois aussi de l'imaginer, parce que on entend aussi, là, François Delerue nous le rappelle à juste titre, que les États-Unis sont aussi un État qui régulièrement lance des attaques sur le cyber, et on imagine qu'évidemment la Chine peut être une victime, disons, en tout cas une cible prioritaire pour Washington. Qu'en est-il du côté de la Chine, si on regarde un peu les choses, Julien Nocetti?
Alors, la Chine est effectivement un acteur majeur de cette cyberconflictualité. Hein. Ça, c'est tout à fait clair. Et les États-Unis, on a rapidement pris la mesure. Ils ont été confrontés pendant, ils sont toujours confrontés d'ailleurs à ces tensions sur le plan cyber avec Pékin. Et pour aller en fait avant, hein, pour remonter avant la période Trump, hein, où ces tensions avec Pékin ont atteint leur paroxysme, sous Barack Obama, hein, déjà surtout entre 2012 et 2016, vous aviez un état de tension latent extrêmement fort sur le plan cyber avec la Chine. L'administration américaine à l'époque avait accusé Pékin de se livrer à des cyberattaques répétées, à la fois à des fins d'intrusion, pour des vols répétés aussi de brevets, de propriété intellectuelle. Ça avait déclenché l'ire évidemment de Barack Obama, qui avait envoyé à l'époque Joe Biden apaiser les tensions avec les dirigeants chinois d'ailleurs. Donc petite parenthèse, Joe Biden n'est pas inexpérimenté à la fois en matière de négociation avec la Chine et sur ces questions cyber, par la recherche d'une forme d'apaisement, d'une sorte de début de consensus sur ces sujets.
Est-ce que vous voulez dire Julien Nocetti, et je vous laisse ensuite poursuivre, mais qu'il y aurait peut-être en la matière une évolution par rapport à son prédécesseur? On a dit Donald Trump, il s'est montré assez rassurant sur cette attaque, à la fois sur l'origine et sur l'ampleur. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en réalité, durant ses 4 années de mandat, il a fait preuve d'une certaine légèreté en la matière?
Donald Trump s'est essentiellement focalisé sur la menace chinoise dont il a sans cesse martelé à coups de tweets toute l'acuité, toute la vigueur. La légèreté dont il a fait preuve, c'est surtout sur le plan de l'organisation de la cybersécurité, la cyberdéfense américaine, où on se souvient que juste après, ça c'est un exemple très symbolique, mais juste après l'élection du 3 novembre, il avait limogé remercier le responsable de la CISA, une des grandes agences américaines de la cybersécurité, Chris Krebs, au motif que celui-ci avait émis publiquement l'idée que le scrutin électoral avait été préservé de toute cyberattaque et avait été régulier. Donc ça avait déclenché la colère de Donald Trump, qui du coup avait limogé l'intéressé. Et plus globalement, vous aviez pendant son mandat plusieurs postes à responsabilité sur le plan cyber qui étaient restés vacants, ou dont les intéressés ont quitté leur position après des désaccords avec l'initiative de la Maison Blanche. Donc il y a eu une forme de flou bureaucratique et en même temps de continuité, notamment doctrinale, où on est quand même, y compris sous Trump, dans une politique beaucoup plus offensive. Il y a toute une série de débats doctrinaux aux États-Unis qui portent sur une défense vers l'avant, sur ce qu'on appelle un engagement persistant, etc. Donc c'est une posture très offensive dans le cyberespace et qui n'a pas été mis entre parenthèses sous Trump.
Pour en revenir à la Chine, allez-y.
Pour en revenir à la Chine, excusez-moi. Donc les tensions que j'ai décrites rapidement entre États-Unis et Chine à l'époque avaient abouti à un traité bilatéral destiné à apaiser ces tensions, hein, signé en 2015, et qui a par la suite été allègrement foulé du pied par les deux acteurs, et surtout vraisemblablement la Chine, qui a continué de se livrer à des intrusions et à des vols de données. Donc l'état de tension latent entre ces deux pays ne s'est pas véritablement apaisé par la suite, et finalement on est toujours dans un conflit assez ouvert, hein, entre Pékin et Washington à ce sujet.
François Delerue, Si on regarde un petit peu les choses et qu'on prend un peu de recul, finalement, pourquoi on est dans cette conflictualité, cette cyber-conflictualité ? Parce que il y a quand même eu un moment où la communauté internationale, je mets des guillemets, la formule n'est pas toujours bonne, mais enfin, on a essayé. Il y a eu un mouvement international, en tout cas, qui visait un peu à pacifier ce monde cyber, à essayer de trouver des règles qui permettaient de préserver les usages qu'on y avait et de ne pas s'y faire la guerre. Est-ce que à ce moment là, les acteurs dont on parle, les principaux, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, ont fait des efforts pour tenter de pacifier ce cyberespace, ou au contraire, on s'est dit, voilà une formidable opportunité pour déplacer au fond la conflictualité dans un nouveau champ qui va nous être bien avantageux. François Delerue.
Alors c'est une question intéressante, c'est une question qui n'est pas que cyber et qui est une question, en fait, je dirais, qui est une question philosophique générale sur la communauté internationale. C'est que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous avons adopté la Charte des Nations Unies, nous avons créé l'ONU pour réduire la guerre. On peut pas dire que dans les 60 dernières années, les États-Unis ou la Russie, qui étaient les deux grandes puissances de l'époque, ont vraiment arrêté de faire la guerre. Donc c'est un petit peu la même chose dans le cyberespace. Oui, il y a des efforts qui sont menés aujourd'hui. Et il y a une vraie volonté d'un certain nombre d'États et de la majorité, je dirais, de la communauté internationale d'arriver à des points d'accord, que ça se passe au sein des Nations Unies, que ça se passe aussi dans des organisations régionales. Aujourd'hui, l'OSCE, par exemple, est très très active au niveau européen sur ces questions, et l'Union européenne aussi se montre de plus en plus active. Mais le souci est que les États ont quand même des besoins stratégiques, ont quand même une véritable concurrence stratégique, et que cette concurrence se traduit dans différents aspects, que ce soit des guerres économiques, on a vu tout ce débat aussi sur ce sujet-là, et dans le cyberespace. Donc c'est là aussi où il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ce qui est fait, on va dire, en termes de négociations internationales et d'accords internationaux. Ces accords ne produisent peut-être pas les effets qu'on souhaiterait, mais ils permettent quand même de réduire et d'aboutir à une certaine normalisation des relations dans le cyberespace, et finalement à limiter la belligérance ou limiter les actions de certains États. Sur la question justement Chine, États-Unis, Russie, et comme il était rappelé par Julien Nocetti, il y a eu des discussions entre ces États, il y a eu des accords qui ont été passés entre ces États, notamment les États-Unis et la Chine. Ce qui était intéressant à l'époque et qu'il est important de montrer aujourd'hui et de mettre en perspective, c'est que cet accord ne concernait que l'espionnage économique et qui était la grande peur des États-Unis, qui était un peu ce qu'il critiquait sur la Chine. C'est que la Chine menait, en tout cas, et d'après les accusations américaines, des cyberopérations d'espionnage afin de collecter des infos pour faire de l'espionnage économique et favoriser ses entreprises. Là où souvent l'espionnage qu'on va identifier de la part des Américains ou de la part des Russes et les cyberattaques qu'ils vont mener ont plutôt un but politique qu'économique. Et donc c'est là aussi peut-être une différence sur le jeu de ces différents acteurs. En termes de stratégie, en termes d'évolution, et c'était assez bien expliqué sur la question américaine, mais un point qui est important de voir, c'est qu'au niveau américain, comme dans la plupart de ces États, il est important de dissocier ce qui se passe au niveau politique de ce qu'on va dire se passe au niveau technique. Dans le sens où les administrations cyber aujourd'hui, les institutions cyber sont souvent des très grosses entités qui ont leur propre fonctionnement, qui ont leur propre stratégie. L'échelon politique est important. Mais sous l'administration Trump, par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'échelon politique, notamment parce que pendant toute une période, la personne en charge du cyber était Rudolph Giuliani, et je pense que maintenant tout le monde sait qui est Rudolph Giuliani et quel était son rôle dans les activités de Donald Trump. Mais derrière ça, le Cyber Command et d'autres institutions ont continué à travailler, et comme l'a expliqué Julien, il y a notamment aujourd'hui ces deux approches qui sont le Persistent Engagement et le Defense Forward, et cette idée, en fait, que les Américains vont continuer à mener des cyberattaques en vue d'avoir une action préventive. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie américaine consiste à dire, nous allons nous implanter dans les réseaux d'États adversaires ou d'États concurrents pour être prêts à y faire des dommages le jour où on a besoin. Et notamment, vous avez une déclaration du Cyber Command qui date d'il y a quelques mois, où il disait, nous sommes présents dans les ordinateurs qui gèrent la grille électrique, donc le système électrique russe, pour être prêt à couper le courant si un jour nous devions en arriver là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi, quand on en revient à ce qui était dit avant, mais quand les Américains nous disent on n'a pas les capacités de se défendre, et dans le même temps, ils reconnaissent publiquement être présents dans les serveurs de gestion de la grille électrique russe.
Mmh. Julien Nocetti, je vous laisse une petite minute, s'il vous plaît, parce qu'après, on va accueillir une nouvelle invitée. On va parler de l'Estonie, qui est le premier pays dont on dit qu'il a été victime d'une cyberattaque. Mais d'un point de vue général, on pourrait faire une heure sur ce sujet. Mais est-ce en quoi la conflictualité dans le cyberespace recompose ou non, d'ailleurs, le cadre géopolitique traditionnel? Est-ce que ça rebat les cartes ou pas tant que ça, finalement, Julien Nocetti?
Effectivement, c'est un très bon sujet. Non, ce qu'il faut peut-être relever, c'est que la suprématie des seuls acteurs étatiques, elle est aussi battue en brèche. Certes, on vient de décrire les stratégies très très établies et offensives, hein, des États-Unis, Chine, Russie, mais vous avez quand même l'irruption d'acteurs privés, que ce soit des hackers, des groupes para-étatiques ou criminels, mais aussi des d'acteurs privés beaucoup plus qui ont pignon sur rue. On parlait tout à l'heure des Microsoft, des FireEye, etc., des sociétés extrêmement importantes et qui se sont dotés de capacités de détection de cyberattaques et d'attribution. Ce sont des acteurs qui, pour certains, je ne vais pas les rementionner, prétendent porter des traités, des conventions à l'échelle internationale. Donc ce sont des acteurs aussi à part entière à l'échelle internationale sur ces questions-là.
Pardon, Julien Nocetti, c'est un avantage pour qui? Pour les États-Unis ou la Chine? Parce que le match, il est là, en gros. Du côté des États-Unis, on a ces acteurs-là qui sont très forts, mais qui en même temps sont indépendants, hein, c'est leur affaire de la médaille. Et du côté de la Chine, on a des géants du web qui, eux, sont beaucoup plus sous la main du pouvoir. Donc, ça avantage qui?
À l'heure actuelle, je dirais que les États-Unis conservent encore un leadership qui a tendance à s'effriter sur certains plans, mais en matière cyber, les États-Unis, de par la portée des actions de la NSA et de la précision de leur doctrine et leur caractère offensif, conservent encore aujourd'hui un leadership.
On était avec vous, Julien Nocetti, et vous, François Delerue, dans cette nouvelle série consacrée aux pirates 2.0, les hackers sous-traitants de la cyberguerre. On va parler de l'Estonie tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
L'Estonie, où en 2007, en plein cœur d'un conflit mémoriel, eh bien, on connaît une vague de cyberattaques sans précédent. Pendant plusieurs semaines, des sites d'institutions sont attaqués, piratés, bloquant tout le pays dont les administrations sont déjà très numérisées. Bonjour Léa Ronzo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste en cybersécurité pour l'entreprise américaine Graphica. Vous avez écrit notamment un article intitulé e-Estonie, le nation branding numérique comme stratégie de rayonnement international, qui était paru dans la revue Hérodote l'année dernière. Parce que ce que vous expliquez effectivement, c'est que après ces événements de 2007, l'Estonie est devenue, je vous cite, l'avocat de la sécurité des systèmes d'information auprès des instances européennes et mondiales. Vous pouvez nous expliquer, Léa Ronzo, les efforts qui ont été déployés par Tallinn en la matière? Qu'est-ce qui a été fait très concrètement pour sensibiliser le monde sur ce sujet?
Alors, en premier temps, je pense que d'abord, il faudrait revenir sur ces cyberattaques, parce que c'est ce qui a vraiment fondé finalement le mythe de l'Estonie comme pionnier de la cybersécurité. Donc ces cyberattaques, en fait, en 2007, il faut recontextualiser un petit peu tout. L'Estonie était déjà très 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 dépendante des services en ligne, notamment au niveau gouvernemental et banque, sachant que le pays avait commencé une transition numérique dès la fin des années 90 pour que tout soit en ligne finalement. Tout ce que nous on fait sur le papier en France, l'Estonie le fait en ligne. Aussi, un autre point très important, c'est qu'à cette époque, et même toujours aujourd'hui, l'Estonie est constituée à un quart d'une population russophone qui est donc arrivée en Estonie pendant l'URSS. Et en 2007, à Tallinn, les russophones constituaient entre 35 et 40% de la population russophone. Donc, en fait, début 2007, ce qui se passe, c'est que les cyberattaques, elles sont déclenchées par un projet de désovietisation qui est mis en place par le gouvernement estonien, pour enlever du centre de Tallinn une statue qu'on appelle le soldat de bronze, qui est en fait une statue qui célèbre les soldats soviétiques tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce déplacement va vraiment provoquer l'ire des communautés russophones et aussi des Russes de Russie, notamment parce que sous cette statue, il y a les ossements de soldats et aussi de personnel soviétique qui ont été enterrés là.
Donc, oui, on a un conflit mémoriel qui est très important. En fait, je vous ai pas lancé parce que on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler. C'est pour ça que je me suis permis d'aller tout de suite à ce qui me semblait le cœur de votre sujet, c'est-à-dire la manière dont l'Estonie a utilisé cette question de la cyberdéfense comme étendard sur le plan international.
D'accord, très bien, excusez-moi.
Je vous en prie.
Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils se sont fait attaquer, il faut savoir que les attaques ont vraiment déconnecté l'Estonie de l'Internet mondial. Ils ont vraiment réussi à retourner leur statut de victime de pays agressé, de manière à pouvoir dire, nous, on a été agressés, donc on est les mieux placés pour en parler. Ce statut de pionnier, en fait, de personne qui est le mieux placé pour en parler, ça s'est articulé sur deux points, notamment sur la scène internationale, où l'Estonie, après les cyberattaques, a commencé à plaider de manière vraiment très forte pour une augmentation de la cybersécurité européenne et au niveau de l'OTAN auprès des institutions. En 2008, ça s'est soldé par l'ouverture du centre d'excellence en cyberdéfense coopérative de l'OTAN à Tallinn, qui a vraiment fini d'entériner ce statut estonien de précurseur et aussi de poids lourd dans le secteur. Et au niveau local aussi, il y a plusieurs choses qui ont été faites, c'est-à-dire que il y a vraiment eu toute une analyse qui a été faite sur les cyberattaques pour vraiment comprendre ce qui s'était passé. Et en 2008, de ces analyses ont découlé le plan de cyberstratégie estonien, qui en fait est un espèce de livre de
planification un peu de la cyberstratégie de l'Estonie en gros. Mais ce qu'on comprend, Léa Ronzo, voilà, c'est d'abord que on avait là en Estonie déjà une place forte du numérique, et ce depuis très longtemps. Et en réalité, on pourrait même remonter à l'époque soviétique où déjà on avait une place forte. Et puis par ailleurs, il faudrait aussi dire que, parce que tout n'est pas fait de rupture, mais il y a beaucoup de continuité dans cette affaire, il y a effectivement ce centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'OTAN, mais qui en réalité était déjà dans les tuyaux. Donc on choisit de le mettre ici, mais l'idée existait déjà. La question est maintenant, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Vous écrivez, là encore, je vous cite, « Désormais élément incontournable du nation branding estonien, la cybersécurité, la cyberdéfense et la gouvernance numérique font l'objet de coups d'éclat réguliers dans la presse, justifiés par la menace géopolitique à la fois réelle et fantasmée que représente la Russie. Mais la surenchère, dites-vous, à l'innovation commence cependant à montrer ses limites. En quoi l'Estonie se retrouve aujourd'hui confrontée aux limites de ce qu'elle peut faire en matière d'innovation technologique et d'utiliser cette cyberdéfense comme étendard sur le plan international?
Alors, ça s'articule principalement au niveau de deux points. Donc, un premier qui est le fait que l'Estonie, c'est un pays d'un 1,3 million habitants, ce qui fait que la main-d'œuvre est très, très, très limitée. Et aussi sur le fait que la cybersécurité, la cyberdéfense est devenue un sujet international dans lequel beaucoup de pays se sont lancés et dans lequel beaucoup de pays sont devenus très performants, souvent plus performants que l'Estonie. Donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un espèce de, comme je l'appelle dans mon article, de nation branding qui a été fait à ce niveau-là pour justement lancer des brides d'informations par-ci par-là de temps en temps pour que l'Estonie reste en fait sur le devant de la scène, histoire de dire l'Estonie va faire ça, l'Estonie a un projet de faire ça, et ça lui permet justement, parce que le cyber en Estonie, c'est un besoin qui est à la fois, je dirais, vital, dans le sens où c'est ce qui fait que l'Estonie est connue à l'international malgré son statut de petit pays, et aussi une espèce de fierté, parce que l'Estonie, dans son discours national, considère le numérique et tout ce qui en découle comme quelque chose de qui est qualifié, par exemple, de miracle aussi. Lorsque les anciens présidents en parlent.
Oui, il faut par exemple, on peut mentionner par exemple Léa Ronzo, la formidable histoire autour de Skype, qui est une entreprise qui a connu un succès mondial, mais qui au départ a été créée par des programmeurs estoniens. On se demande si aujourd'hui on pourra avoir encore un succès technologique comme Skype.
Oui, il y a beaucoup de compagnies qui suivent cet exemple. Il y a Skype, il y a TransferWise, il y a maintenant Bolt, anciennement Taxify. C'est vraiment c'est utilisé aussi dans le discours national estonien, présenté comme ils les appellent les licornes en Estonie. C'est vraiment ces symboles de la startup nation estonienne qui s'est construite sur la cybersécurité, la cyberdéfense et la gouvernance numérique.
Julien Nocetti, peut-être un tout dernier mot, parce que vous connaissez particulièrement, je le disais tout à l'heure, la question de la Russie. L'Estonie, elle s'est placée comme pionnier de cette cyberdéfense à cause de cette première attaque qui venait de la Russie. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour l'Estonie? Est-ce qu'elle est encore menacée par... C'est encore une cible privilégiée de Moscou, l'Estonie, Julien Nocetti?
Alors effectivement, l'attaque de 2007 a été un peu le socle hein, de toute la politique cyber du pays hein, qui s'en est suivi et dont les historiens sont toujours friands de rappeler les modalités. Donc ça, on sent bien que ça a été un événement fondateur, je dirais, très schématiquement hein, de toute cette politique. Ils se perçoivent bien évidemment aux avant-postes de cette menace russe, bien évidemment, alors que comme disait Olivier Aronzo, qu'elle soit réelle ou fantasmée, c'est à chacun d'en établir les contours. Mais il y a évidemment une sensibilité du pays à toutes ces infrastructures numériques qui est extrêmement forte. Donc ça place le pays déjà dans un état de vulnérabilité qui est certain. Moi, ce que je voulais très rapidement relever dans le cas de l'Estonie, hein, c'est un pays et du coup leurs responsables et décideurs. Ils sont assez incontournables sur ces thématiques en Europe et pour penser au Parlement européen en particulier, dans toutes les différentes commissions, groupes de travail, etc. Où vous avez des Estoniens et des Baltes en général qui sont omniprésents et qui peuvent diffuser leur propre conception, leurs propres approches de ces thématiques.
Donc toujours aujourd'hui, plus de 15 ans après la cyberattaque, ouais.
Tout à fait. Et d'ailleurs, un petit point d'actualité, la première ministre qui vient de prendre ses fonctions ces jours-ci, Kaya Kallas, a été élue au Parlement européen pendant des années et était une des figures sur ces sujets de cybersécurité. Donc vous avez une continuité entre voilà l'échelon européen et la scène estonienne, on va dire, sans parler de l'échelon de l'OTAN, qui sont tous étroitement imbriqués pour l'Estonie. Et c'est aussi par ce biais qu'ils peuvent aussi porter leur propre position, sachant qu'ils sont aussi très impliqués. Et ça va également en Afrique, etc., dans ce qu'on appelle le renforcement de capacités, le capacity building, où là, ils vont financer différents programmes de renforcement de capacités cyber, des cycles de conférences, etc., et qui vont là aussi diffuser une image particulière du pays, de l'Estonie, comme étant un acteur en pointe sur ces enjeux cyber, avec à chaque fois l'idée que la Russie est en arrière-plan des principales menaces.
Merci à tous nos invités. D'abord, Léa Ronzo qui était avec nous à l'instant par téléphone. Je rappelle donc votre article e-Estonie, le Nation Branding Numérique comme stratégie de rayonnement international qu'on peut retrouver dans la revue Hérodote. Un grand merci à nos deux invités, Julien Nocetti et François Delerue, de nous avoir accompagnés ce matin, d'avoir entamé cette nouvelle série consacrée aux pirates 2.0. On la poursuivra demain, évidemment, ça c'est rendez-vous donc 11h. Dans un instant, c'est Olivia Jesbert et la Grande Table. Mais pour l'heure... Pardon, Brice Couturier, le tour du monde des idées. Alors lui, c'est pas un pirate 2.0, c'est un pirate 1.0.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice, j'en perds ma voix. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Timothy Snyder est un très grand historien américain.
Oui, son livre Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline en particulier, est un chef-d'œuvre. J'avais été beaucoup moins convaincu par le bref essai qu'il a publié au lendemain de la victoire de Trump au présidentiel qui s'appelait « De la tyrannie, 20 leçons du XXe siècle ». Faire de Trump l'alter ego des tyrans totalitaires d'hier m'avait semblé pousser le bouchon un peu loin. Mais après les événements extravagants qui se sont déroulés au Capitole le 6 janvier, je me demande si ce n'était pas Tim Snyder qui avait raison. Alors je l'appelle Tim parce que j'ai bien connu Timothy Snyder. Nous avons partagé le même étage d'une maison estudiantine de Banbury Road à Oxford durant l'année universitaire 1992-93. On nous avait logés côte à côte car nous étions réputés travailler l'un et l'autre sur l'histoire de la Pologne. Tim était alors titulaire de la prestigieuse bourse Rhodes, celle qui avait amené Bill Clinton à Oxford quelques années plus tôt. J'avais été élu moi-même Mid-Career Fellow du St. Anthony's College et c'est au St. Anthony's que nous assistions tous les deux passionnément au séminaire de Timothy Garton Ash. C'était alors le point de rencontre de tous les étudiants de troisième cycle se spécialisant sur l'Europe centrale. Et déjà, ce jeune étudiant américain m'avait paru dominer cette brillante assemblée par son haut niveau de compétences, de réflexion et par sa capacité à s'assimiler des langues étrangères, cas assez rare chez les Américains. Quelques années plus tard, il m'a hébergé chez lui à Prague où il poursuivait ses recherches. Et ces lumières m'ont amené à réinterpréter plusieurs scènes dont j'avais été témoin au même endroit à Prague durant la révolution de velours en novembre 1969. Mais je raconterai ça dans mes mémoires. Plus récemment, il m'a accordé, Tim Snyder, des interviews toutes passionnantes dans l'une de trois quarts d'heure destinée à cette radio, France Culture. Mais les responsables de l'époque, qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, ne l'ont pas jugé digne d'intérêt. Quelle erreur ! Car Timothy Snyder est devenu depuis l'un des intellectuels publics américains qui compte. Dans le long papier d'analyse qu'il a publié dans le New York Times la semaine dernière, il revient sur le parallèle donc entre trumpisme et fascisme. La post-vérité, écrit Snyder, c'est le pré-fascisme. Et Trump a été notre président post-vérité. Et c'est vrai que sans un minimum d'accord préalable sur ce qu'est la réalité, il n'y a pas de dialogue démocratique qui tienne. Trump a commencé sa carrière politique en assénant, on s'en souvient, des vérités alternatives. Il a construit un univers de mythes parallèle à la vérité. Tout un délire complotiste a été monté autour de lui. Elle le dépeint comme en guerre secrète contre un état profond tenu par des réseaux pédophiles et des cultes sataniques. Mais à partir du moment précis, soit au mois d'octobre dernier, où il a commencé à prétendre qu'il ne pouvait pas perdre les élections et que s'il les perdait, ce serait nécessairement l'effet d'une fraude, alors son comportement a commencé à laisser présager un coup d'État. À partir de là, écrit Timothy Snyder, il a menti à une cadence peut-être inégalée. Il a construit un récit à destination des millions de fidèles qui le suivaient dans sa fabrication d'une réalité alternative, une alter-réalité selon laquelle il aurait gagné des élections qu'il a en réalité largement perdues, puisqu'avec 7 millions de voix d'avance, Joe Biden a obtenu le vote de 306 grands électeurs contre 232 pour Trump.
Et Brice, pour Snyder, les militants républicains se divisent en deux catégories. Ceux qui acceptent encore de jouer selon les règles du système politique et ceux qui rêvent de le briser, leur alliance brinque-ballante contraint leur parti à des jeux d'équilibre compliqués.
Trump, écrit Snyder, était différent des autres casseurs républicains dans la mesure où il paraissait n'avoir aucune idéologie. Son intention était de casser le système pour servir sa propre cause. De ce point de vue, son pré-fascisme est très loin du vrai fascisme. Sa vision n'a jamais dépassé celle que lui renvoyait son miroir. Et c'est sans doute ce qui explique le caractère aberrant de la prise du Capitole. Ses troupes n'étaient guidées par aucun objectif précis. Je cite « Difficile de trouver un précédent comparable où l'on s'est emparé d'un bâtiment aussi prestigieux pour y passer la plupart du temps à déambuler ». Mais le mal est fait. Le mythe de l'élection volée risque d'avoir la même efficacité que celle du coup de poignard dans le dos pour l'extrême droite allemande de l'entre-deux-guerres. Le camp des casseurs républicains va s'en servir, y compris ceux des dirigeants qui rêvent de prendre la place du chef comme Ted Cruz ou Josh Hawley. Pour l'heure, Trump est le martyr en chef, le grand prêtre du mensonge, c'est le chef des casseurs, mais les joueurs républicains, eux, ne veulent plus de lui. Dépouillé de ses fonctions présidentielles, il deviendra aussi encombrant qu'en 2015. Mais sa tentative de coup d'État doit constituer un avertissement, écrit Snyder. Son pré-fascisme vient de révéler une nouvelle possibilité dans la vie politique américaine, conclut-il. Dans le complot contre l'Amérique, Philip Roth avait imaginé un lent glissement des États-Unis vers le fascisme à la faveur d'une victoire imaginaire de Lindbergh au présidentiel de 1940. Il nous manque à présent un romancier pour nous raconter une nouvelle victoire de Donald Trump aux élections de 2024.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve demain dans un très très court instant maintenant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.